Bonjour Laurent Jacobelli.
Bonjour Frédéric Rivière.
Emmanuel Macron s'est exprimé hier à la tribune de l'ONU à l'occasion de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. La guerre en Ukraine a été au centre de son discours. Le chef de l'État a estimé que ce conflit ouvrait la voie à d'autres guerres d'annexion et menaçait la paix en Europe et celle du monde. Emmanuel Macron a dénoncé un retour à l'âge des impérialismes et des colonies tout en assumant le dialogue avec la Russie. Est-ce le discours que vous aviez envie d'entendre ?
Alors, écoutez, en tout cas, c'est une bonne chose de savoir qu'Emmanuel Macron se rend compte qu'il y a aujourd'hui, à travers les nations, un risque impérialiste, un risque que vit la France d'ailleurs, hein, avec l'impérialisme américain, dont on voit bien le rôle qu'il peut jouer actuellement à travers l'OTAN, l'impérialisme aussi d'une nouvelle Europe, celle de la Commission européenne, qui veut soumettre les nations à son bon vouloir, et on peut le voir à un certain nombre de réformes qui nous sont imposées en France, où, très honnêtement, la démocratie se délite au profit d'un pouvoir non élu à Bruxelles. Et il y a aussi, il faut le dire, l'impérialisme russe. Qu'Emmanuel Macron se rende compte que l'impérialisme est dangereux et qu'il faut le retour des nations, ce serait une bonne chose et qu'il l'applique d'abord pour la France. Espérons qu'il a vu la lumière. J'en doute un peu.
Aujourd'hui, c'est tout de même l'impérialisme russe, non, qui est le plus menaçant ?
Pas seulement. Il y a un impérialisme de guerre qu'il faut combattre, évidemment. C'est l'impérialisme russe, dont on a bien vu avec l'invasion de l'Ukraine qu'il était vivace et qu'il risquait de s'étendre. Tous les impérialismes sont nocifs. Et je le répète, il y a aujourd'hui trois impérialismes principaux, celui des États-Unis et d'Amérique, celui de la Commission de Bruxelles et celui de la Russie.
La France insoumise et maintenant les écologistes sont empêtrés dans les affaires de violence physique ou morale à l'égard des femmes avec les affaires Quatennens et Bayou. Sommes-nous, selon vous, dans une forme de mutation sociologique qu'il faudrait saluer et soutenir ou dans un grand déballage qui n'aurait plus de limite ?
Nous sommes entre les deux, c'est-à-dire que depuis le phénomène MeToo, la parole des femmes s'est libérée et c'est une bonne chose parce que beaucoup de femmes qui étaient agressées physiquement, sexuellement, n'osaient pas parler par une espèce de contrainte, de verrou social. Aujourd'hui, la parole est libérée et la libération de la parole permet derrière des poursuites judiciaires et le respect de nos lois et puis le respect aussi d'une attitude digne de l'homme vis-à-vis de la femme. En revanche, il ne faut pas que la publication de ces faits devienne un outil politique pour détruire une carrière, pour se venger d'un ennemi politique, et c'est tout l'équilibre à trouver. Mais la franchise vaut toujours mieux que l'hypocrisie. On peut s'étonner d'ailleurs de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Adrien Quatennens. Pas un mot pour la femme qui a subi la violence du mari.
Dans son premier tweet.
Oui, dans son premier tweet.
Ensuite, il en a publié un.
Mais il parle de M. Quatennens comme d'un homme courageux, admirable. C'est un tout petit peu choquant. Je crois qu'il y a une hypocrisie dans cette gauche morale, cette gauche qui donne des leçons, cette gauche qui revendique les droits de la femme, et il faut le faire, qui prône l'écriture inclusive, mais qui, dans le secret de la maison, se comporte autrement. Cette gauche qui condamne le racisme et qui nourrit en son sein des antisémites. Cette gauche qui prend toujours le parti de ceux qui agressent plutôt que des victimes. Cette gauche morale, aujourd'hui, elle doit aussi se remettre en question. Ces donneurs de leçons doivent se remettre en question. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas plus dignes que les autres et ils ne sont pas plus vertueux.
Le Rassemblement national a déjà indiqué que ses députés ne voteraient pas le projet de budget 2023. Le texte n'est pas encore arrivé à l'Assemblée nationale pourtant. Est-ce que c'est l'attitude, le comportement d'une opposition constructive, puisque c'est ce que vous aviez dit vouloir être ?
Nous sommes une opposition. Une opposition constructive, mais vous savez comme moi, Frédéric Rivière, que le budget, c'est finalement la mise en équation, la traduction en chiffres d'une volonté politique. Comment on finance le projet politique du gouvernement ? Or, le projet politique du gouvernement, on le voit bien aujourd'hui, c'est la casse sociale, c'est la destruction de notre régime de retraite et d'assurance chômage, c'est une migration complètement débridée avec, on vient de l'apprendre de la bouche même du président de la République, l'installation de migrants dans le moindre village français. Si c'est pour financer...
C'est un projet.
Oui, c'est un projet néfaste et délétère. Et si c'est pour financer cette triste politique, évidemment, nous nous y opposerons. Et comme nous nous opposons à Emmanuel Macron et à sa vision mondialiste, à sa vision peu démocratique de la gouvernance de la France, eh bien, Évidemment, nous nous opposerons à la traduction chiffrée de cette vision politique. Nous ne voterons pas le budget.
Est-ce que vous pensez qu'un front des oppositions soit possible pour voter une motion de censure sur ce projet de budget ?
En tout cas, c'est la menace qui pèse sur le gouvernement s'il utilise le 49-3. Clairement, face au 49-3, il y a une réplique presque automatique. C'est la motion de censure. Nous verrons bien. Nous verrons bien si toutes les oppositions sont prêtes à faire respecter le débat démocratique qu'il faut le dire, serait entaché par le 49-3. On peut en douter quand on voit que la France insoumise a refusé de voter un amendement sur les surprofits qu'avait proposé le Rassemblement national. Vous savez, de la théorie à la pratique, il y a souvent un grand chemin.
Oui. Cet amendement, il n'a pas été voté pour des raisons idéologiques, parce qu'il venait de chez vous ?
Bien sûr, mais c'est toute l'ambiguïté de la France insoumise qui prétend à l'Assemblée défendre ses idées, mais qui en fait ne fait que de la politique aérie, qui s'agite, qui remue, qui crie, qui hurle, qui gesticule, mais quand on cherche du concret, il n'y a rien.
Vous êtes opposé à la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron voudrait mettre en place rapidement. Est-ce que vous souhaitez, comme la France insoumise, que la rue se mobilise contre ce projet ?
Moi, je souhaite que l'Assemblée se mobilise contre ce projet. Il y a aujourd'hui 577 députés qui ont été élus par le peuple. Moi, vous savez, je suis toujours un peu gêné quand on veut enjamber la démocratie. Que ce soit le président de la République qui crée des comités théodules pour remplacer l'Assemblée nationale ou qui prévoit de passer en force avec la 49-3 ou la France insoumise qui dit que les institutions ne servent à rien, qu'il faut faire la révolution dans la rue et couper des têtes. Je pense que les deux extrêmes, l'extrême centre et l'extrême gauche, sont extrêmement dangereux pour notre pays. C'est à l'Assemblée nationale qu'on doit discuter et voter des lois. Vous savez, vous disiez que la réforme des retraites était le projet d'Emmanuel Macron. Pas du tout. Emmanuel Macron n'est que le petit télégraphiste de la Commission européenne qui a dit « Nous allons débloquer des fonds pour le plan de relance pour la France à condition que vous réformiez les retraites. » Parce que rien ne justifie la réforme des retraites. Ni d'éventuels déficits. Nous sommes en bénéfice de 900 millions cette année. Ce sera 3 milliards l'année prochaine.
Mais ça basculera dès 2023.
Jusqu'en 2030. Donc il y a 5 à 10 années maximum, un peu compliqué à tenir.
Oui, le rapport, conseil d'orientation des retraites parle d'un déficit jusqu'au moins pendant 25 ans. Qui ne serait pas forcément un déficit très important, mais déficit tout de même.
D'accord, mais déficit en dessous du trait. Et à partir de 2030, un quasi-équilibre. Moi, je tiens à rappeler quand même qu'il y a un Français sur deux qui arrête de travailler avant d'être à la retraite. Et donc, à peu près à 57 ans et demi, soit pour cause de maladie, soit pour cause de chômage. Et si demain, on recule l'âge de la retraite, peut-être qu'on fera quelques économies sur les caisses de retraite, et c'est même pas sûr, mais on creusera les caisses du RSA, les caisses de l'assurance chômage. Donc tout ça, c'est de l'idéologie pure d'ailleurs. Aucun syndicat ouvrier, aucun syndicat patronal aujourd'hui ne semble prêt à suivre Emmanuel Macron sur sa réforme, ni même le MoDem, c'est vous dire.
En novembre prochain, le Rassemblement national aura un nouveau président, ou peut-être pas d'ailleurs, puisque ce sera peut-être Jordan Bardella qui assure le poste par intérim, ou alors Louis Alliot, c'est l'autre candidat, le maire de Perpignan. Pour votre part, vous soutenez Jordan Bardella.
Bien sûr, oui.
Mais rapidement, est-ce que vous savez, est-ce que pour vous, il est dans votre esprit, les raisons du départ de Marine Le Pen, de la présidence du parti, sont parfaitement claires ?
Bon, c'est pas un départ. Je crois que Marine Le Pen...
Elle quitte la présidence.
Elle quitte la présidence, mais elle reste très présente au Rassemblement national. Et d'ailleurs, c'est une chance pour nous. Marine Le Pen a décidé de prendre la présidence du groupe à l'Assemblée, ce qui est une tâche très importante. Et puis, vous savez, Marine Le Pen, elle a vocation, je crois, à rassembler tous les patriotes de France. Et pour ça, elle doit être, comme l'avait prédit le général de Gaulle lors des institutions, au-dessus des partis politiques. Oui. Et donc, elle est dans cette position de rassemblement. Et donc, le Rassemblement national est son principal soutien, je l'espère pas le seul. Et donc, on distingue bien le parti de celle qui sera, je l'espère, la future candidate à la présidence.
Merci Laurent Jacobelli.
Merci à vous.